Le pouvoir des mots. Est-ce que mes paroles sont une source de bénédiction ou une source de malédiction? Parce qu'en réfléchissant un peu dessus, je réalisais combien les mots ont un pouvoir extraordinaire sur nous, à partir du moment où nous les entendons, mais en plus, à partir du moment où nous les croyons, à partir d'un juste un tout petit mot. Je peux construire une identité positive ou négative. Je peux partir d'un mot, je peux apporter la vie. Je peux me conseiller mon âme, conseiller d'autres personnes. Et je réalisais, parce que je suis une grande bavarde, j'aime beaucoup ça, j'aime bien papoter en fait, vraiment, tatata, je commande tout, etc. Et cette réflexion venait en me disant, mais en réalité, je prononce des centaines, peut-être des milliers de paroles, de mots par jour. Et est-ce que je suis consciente de la portée de mes paroles, du retentissement qu'elles peuvent avoir sur moi en premier lieu? Et puis aussi, peut-être l'effet de mes paroles sur d'autres personnes. Donc en fait, voilà, l'idée initiale de cette étude, c'était ça, c'est de me rendre compte un jour que je papotais comme ça et me dire, mais quand même, la parole et tout, et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Donc, toujours pour illustrer la puissance des mots, j'ai une petite anecdote à ce sujet, à propos des choses qui peuvent nous définir. Quand j'étais petite, j'étais une élève tout à fait lambda, etc., en école primaire, j'étais une bonne élève. J'étais studieuse et en fait, j'aimais beaucoup aller à l'école. J'étais curieuse et ça allait, j'avais des amis, mais surtout j'aimais apprendre. J'étais curieuse, donc j'aimais apprendre. C'était facile, j'ai jamais eu de difficulté pour faire des devoirs, j'ai jamais pleuré parce que j'allais à l'école, etc. J'avais des amis, tout se passait très bien. Ça a duré un bon bout de temps, en tout cas. Oui, tout allait très bien, c'était facile. Et je me suis jamais posé aucune question sur moi en tant qu'élève. J'allais à l'école. Comme tout le monde va à l'école, ça se passait bien, c'était normal. Et je me souviendrai toujours, un jour il y a une bombe qui a éclaté. C'est à un moment, alors c'était pas les premières années ni la deuxième année, c'était peut-être en CM1, CM2, où il y a eu un bulletin et j'avais plein d'appréciations et toutes les appréciations étaient bonnes. Mais parmi toutes les appréciations, tous les encouragements, il y a un petit mot qui a été glissé. Où la maîtresse disait que ça allait bien, mais que j'étais lente. Et pour dire la vérité, c'est anecdotique, mais ce mot, ça a été une explosion. Vraiment. C'est-à-dire qu'il est venu, il est rentré dans ma tête, et j'en ai fait mon identité. Mais vraiment. Ça a produit plein de choses en moi, c'est-à-dire j'avais beau avoir une liste comme ça, peut-être de bonnes appréciations, tout d'un coup j'ai été redéfinie complètement par ce mot. C'était bien ce que je faisais, j'étais une bonne élève, tout allait bien, j'apprenais bien mes leçons, mais j'étais lente. Et en fait c'est drôle parce que c'est quelque chose qui encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, me colle à la peau. Si on me dit que j'ai fait quelque chose de bien, alors maintenant, je me mords la langue, mais c'est un effort conscient. C'est, je suis toujours tentée de dire oui, mais je sais que je l'ai pas fait aussi vite que. C'est complètement stupide. Enfin, complètement stupide. C'est comme ça. C'est un réflexe, etc. Et me dire c'est fou, c'est comme entre guillemets. Je veux pas du tout paraître superstitieuse, mais c'était vraiment comme une malédiction où quelque chose est venu me définir. C'était assez désagréable, mais pourtant je l'ai pris comme une identité. Et encore aujourd'hui, c'est pour moi une bataille dans mes pensées de ne pas me définir par rapport à ça. Alors vous imaginez, je vous raconte quelque chose qui s'est passé, j'avais 7-8 ans, c'est complètement anecdotique, en même temps ça a encore une forme de portée, une forme de valeur, mais c'est une expérience parmi des milliers. Et je parle de ça parce que c'est au final, je pense que ça nous est arrivé à tous. Alors, je ne sais pas, je vous regarde, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être défini tout d'un coup. Est-ce qu'il y en a qui ont été définis comme étant le chouchou de la maîtresse, par exemple, ou au contraire, le mauvais élève de la classe, la super intelligente, ou je ne sais pas, la fille cool du lycée. Enfin, je parle des années de scolarité, mais ce sont des choses qui ensuite peuvent nous suivre tout au long de la vie. Et donc, je vous dis, cette anecdote, c'est une chose parmi peut-être des milliers d'expériences, des centaines d'expériences où finalement, il y a des mots, il y a des jugements de valeurs plus ou moins bons, plus ou moins justes, plus ou moins vrais qui nous sont attribués. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les reçoit? Et donc, de me dire, mais qu'est-ce que la Bible en dit? Et puis, effectivement, en cherchant, alors, c'est extrêmement large comme sujet. Et effectivement, la Bible fournit d'exemples sur le pouvoir de la langue. Par exemple, pour n'en citer qu'un, Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Un autre passage qu'on connaît peut-être, on est plus familier, c'est Jacques 3:2 qui dit « Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. » Et au verset 5, « De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. » Eh bien, la langue est pareille à un feu. Ensuite, toujours dans Jacques 3, au verset 9, « La langue, nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. » Et en fait, en faisant cette étude, moi, je pensais aux mots, au pouvoir des mots, au pouvoir de la langue. Et plus j'avançais dans l'étude, plus je voyais qu'il y avait ces deux mots qui étaient très très forts, qui revenaient, c'était la bénédiction ou la malédiction. Et encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'être superstitieux, mais vraiment, ça a attiré mon attention sur cette importance qu'il y a, et de voir que le Seigneur prend vraiment nos paroles très très au sérieux. Et leur confère un pouvoir incroyable. Malédiction dans l'hébreu, c'est le mot kalal, et en fait ça signifie maudire. Donc évidemment, maudire, c'est dans le dictionnaire français, il est dit de vouer à la damnation éternelle. Donc c'est vraiment pas, alors c'est pas quelque chose qui est au pouvoir de l'homme, hein, on en parle pour un attribut divin, mais autrement ça signifie déshonorer, dire du mal, mépriser, rabaisser. Et littéralement, quand on cherche à la racine, ça signifie faire du mal à quelqu'un au travers de paroles efficaces. Donc c'est intéressant. Comme effectivement, nos paroles peuvent être extrêmement blessantes, elles peuvent être extrêmement bénissantes aussi. Et donc pour ce qui est de la définition en hébreu du mot bénédiction, la définition du mot bénédiction en hébreu, c'est le mot barak, qui signifie louer, dire du bien, faire du bien à quelqu'un, honorer quelqu'un, invoquer la faveur de Dieu sur la personne. Alors c'est à la fois déclaratif, mais c'est aussi, ça implique une action derrière. Ça implique, je ne dis pas que simplement que le Seigneur te bénisse, mais je l'accompagne très souvent de quelque chose, soit une aide quelconque, soit un cadeau, soit ça peut être prier pour la personne, etc. Donc en hébreu, je vous ai dit c'était barak, et en grec c'est eulogéo, donc on dit en français faire l'éloge, c'est-à-dire vanter, chanter les louanges de quelqu'un. Donc voilà. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, parce que donc au cours de ces pérégrinations où j'étais vraiment marquée sur la façon dont le Seigneur parle de paroles, du fait de bénir ou de maudire, et je suis tombée sur un passage que j'ai trouvé un excellent exemple. Et si vous voulez bien, on va regarder tout ensemble un passage dans le livre de 2 Samuel. Au chapitre 16, à partir du verset 5. Vous me dites, tu me dis quand tout le monde a son livre sous les yeux. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte, Ça se produit, ce passage se produit au moment où, où David, qui est roi de, en Israël depuis un petit bout de temps, il est installé, etc. Et là, ce passage intervient au moment où son fils Absalom fomente un coup d'État contre lui. Et à tel point que David craint pour sa vie et doit s'enfuir de Jérusalem. Donc, ça y est, vous êtes avec vos bibles, vos téléphones bibliques, etc. C'est bon, je vais lire. Donc, je commence du verset 5. « Alors que David approchait de Baourim, un homme sortit de ce village. Il appartenait au même groupe familial que Saül et il s'appelait Shimei. C'était un fils de Guéra. Il avançait en prononçant des malédictions contre David et il lançait des pierres sur lui et sur tous ses hauts fonctionnaires, malgré la foule et les soldats qui entouraient le roi à sa droite et à sa gauche. Shimei criait en le maudissant, en disant « Va-t'en, va-t'en, méchant, vaurien, la mort des membres de la famille de Saül à la place duquel tu as régné te retombe dessus. L'Éternel a fait passer la royauté à ton fils Absalom. Te voilà dans le malheur parce que tu as versé le sang. » Alors Abishai, fils de Tseruya, dit au roi « Pourquoi laisse-t-on ce chien crever insulter mon seigneur le roi? Permets-moi d'aller lui couper la tête. » « Cela vous regarde-t-il, fils de Tseruya ? » lui répondit le roi. « Qu'il prononce ses malédictions, car si l'Éternel lui a dit de me maudire, qui peut le lui reprocher ?» Puis David déclara à Abishai et à tous ses fonctionnaires « Si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à plus forte raison ce Benjaminite agira-t-il ainsi ?» Laissez-le tranquille et qu'il maudisse quel est l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable et changera-t-il la malédiction d'aujourd'hui en bien. David et ses gens poursuivirent leur route, mais Shimei avançait parallèlement à lui sur le flanc de la montagne, continuant à maudire, à lancer des pierres et de la terre. Finalement, le roi et toute sa suite arrivèrent exténués à Baourim. Là, ils purent prendre quelques repos. Et donc, je trouve que c'est saisissant comme passage sur justement la malédiction. Là, on voit clairement, alors que David est en pleine difficulté, donc déjà ça va pas bien pour lui, il se passe quelque chose de terrible en tant que père, déjà premièrement, son fils, un de ses fils, le trahit, se dresse contre lui, retourne le cœur de tout le peuple et ça chauffe à tel point qu'il est obligé de s'enfuir en laissant toutes ses femmes, tout son harem à Jérusalem sous la garde d'Absalom. Donc c'est vraiment une situation qui est déjà assez douloureuse et je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais souvent on vit des choses, c'est déjà, ça commence à être compliqué, ça devient encore plus compliqué, mais c'est pas simplement les circonstances. Au moment où ça chauffe vraiment, il se trouve toujours quelqu'un qui arrive et qui, quelque part, fait déborder les choses en disant par ses paroles. Et là, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que ça illustre très bien les deux attitudes que l'on peut trouver quand on arrive dans ce genre de situation. Où ça va pas et on est finalement, il semble qu'on soit en défaveur. Peut-être que Dieu est même contre nous, puisque là, c'est clairement ce que dit Shimei. Donc, Shimei, en fait, il est un peu... déjà, premièrement, c'est qu'il est dit dans le texte que c'est un homme qui fait partie de la famille de Saül. Saül était le roi d'avant David. On sait très bien que David n'a jamais a été un roi. Il n'a jamais cherché la royauté pour lui-même et qu'il y a eu tout un temps de transition où Saül était toujours le roi, David avait déjà été roi, mais n'était pas véritablement installé en tant que roi. Et ensuite, au cours d'une bataille, donc Saül et Jonathan sont morts, et c'est David qui a repris le trône. Et là, on se retrouve des années plus tard, et Shimei, qui fait partie de la famille de Saül, profite de l'occasion pour arriver et maudire, littéralement, David. Il ne fait pas que maudire, d'ailleurs, il profère une confession très négative, mais il ne fait pas que ça, il lui jette des pierres, il lui jette de la terre. En fait, en français courant, et c'est pas très joli, mais pardonnez-moi l'expression, mais il le pourrit, simplement. Et là, on voit une attitude qui est très intéressante, c'est l'attitude d'Abishai, qui est le neveu du roi. Et là, qui dit, mais bon, est-ce que ce chien va continuer assez longtemps? Laissez-moi lui couper la tête, en gros. Et là, cette attitude, c'est exactement l'attitude naturelle, normale, je dirais, normale de tout être humain. On ne parle pas de « je suis chrétien, je ne suis pas chrétien », c'est la tendance naturelle, c'est œil pour œil, dent pour dent, enfin, un œil pour deux yeux, la mâchoire entière pour une dent, etc. En fait, ce désir, cette colère, etc. Et à tel point que là où David, ça devient une histoire de famille. Là où David est traité de bon à rien, Shimei, lui, est traité de chien. Alors, c'est pas qu'un petit mot comme ça, chien. Déjà, le chien, à ce moment-là, en Israël, c'était un animal impur. Mais littéralement, ça fait référence au terme... c'était un terme qui était utilisé pour désigner les prostituées hommes dans les temples sacrés. Donc, voilà, je passe sous silence ce qu'il disait réellement, mais vous pouvez vous l'imaginer. Et puis, c'est une anecdote, c'est pas du tout le cœur du sujet, mais ça me faisait réfléchir sur notre attitude quand, justement, quand quelqu'un qui nous est proche, un membre de notre famille est attaqué, un ami proche, peut-être son conjoint et tout, de faire très 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 attention à pas se proposer à être le rétributeur, à pas être le vengeur, à pas chercher à faire justice par nous-mêmes, même si ça nous blesse, même si la personne qu'on aime est attaquée, de faire très très attention de se poser. Parce que là, on voit que au final, Abishai, il est peut-être pétri de bonne volonté, mais tout ce qu'il va réussir à faire, c'est d'ajouter au tableau, de mettre de l'huile sur le feu, et David le reprend. Donc, faire très très attention à ça, et de dire attention, je sais que naturellement j'ai ce pouvoir-là d'être ultra réactif. Tu maudis mon roi, moi je te coupe la tête et on n'en parle plus. Problème éliminé, c'est déjà ça de moins. Or, on voit que il y a une autre attitude qui est possible. Et alors, pour moi, c'est une attitude qui est stupéfiante, en fait. Parce qu'elle est, tout simplement, elle est surnaturelle. C'est pas quelque chose que l'on peut produire moralement. C'est l'attitude de David qui dit « Si cet homme me maudit, c'est parce que le Seigneur lui a ordonné de me maudire et personne ne peut lui reprocher. » Moi, ça me souffle. Pour moi, c'est la mission impossible de ma nature pécheresse. Et je pense vraiment que c'est... il n'y a qu'en étant un croyant, une personne née de nouveau, remplie du Saint-Esprit et qui vit à la croix. Et c'est exactement ce que fait David était complètement, pour le coup, il s'est complètement humilié. Il a complètement... abandonner les choses à Dieu. Et en fait, ça dénote d'un premier défi, c'est que David savait et connaissait le caractère de Dieu. Pas alors qu'il était dans cette difficulté-là, il n'a pas du tout émis l'éventualité que Dieu... Il n'a rien dit, en fait. C'était, ça appartenait à Dieu. Sa royauté, il l'avait eue de Dieu. Ce qui arrivait là aujourd'hui, ce jour de destitution, il ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais ça appartenait à Dieu, en disant, mais si le Seigneur a ordonné de me maudire, personne ne peut reprocher à Shimei de le faire. Et en fait, je trouve que c'est impressionnant de maturité, impressionnant d'humilité, impressionnant aussi de connaissance du caractère de Dieu, parce que là, clairement, il s'agit de la souveraineté de Dieu. Et David, devant la souveraineté de Dieu, s'abaisse. Et ça n'est possible que si vraiment je suis fondée. Parce que ça représente un tel défi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est naturellement impossible à vivre. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais que j'ai en moi aucune de ce type de ressources-là. Et encore une fois, on voit qu'il laisse Dieu faire à un point qu'il ne cherche rien, il n'argumente rien, il défend... Et justement, alors qu'il est traité d'homme de sang, c'est lui qui s'oppose à ce que le sang soit versé, même si on l'a insulté, même si on l'a traité de tous les noms. Et ça m'a amené vraiment à penser, je pense qu'on peut tous dire, alors on n'a peut-être pas vécu, on ne vit pas les mêmes choses que David, mais je pense que de façon commune, on peut s'identifier au fait que toutes, nous traversons, nous vivons des injustices, des périodes difficiles, des périodes douloureuses, que ce soit physiquement, psychiquement, émotionnellement ou spirituellement, voire. Et que on peut avoir cette tendance à on peut faire agir Abishai en nous ou David. Moi généralement c'est Abishai qui remporte toujours la première bataille. Mais en fait de juste penser à d'avoir cet exemple de David et de penser à la souveraineté de Dieu. Alors moi ça peut me poser ça a pu me poser comment dire? Ça peut être une difficulté pour moi de me dire comment est-ce que j'accepte, en fait, comment est-ce que ça influence ma relation avec le Seigneur de savoir qu'il est souverain et qu'il permet ce genre de choses dans ma vie. Humainement, avec ma seule capacité de réflexion, intellectuellement, ça n'a aucun sens. C'est quelque chose qu'on peut discerner et qu'on peut accepter, la souveraineté de Dieu, uniquement quand on est rafraîchi dans une relation avec lui, quand on est assuré de son caractère. Et je me disais, mais comment faire pour me rappeler quand ça chauffe comme ça pour moi, quand j'ai envie de laisser Abishai s'exprimer en moi, comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut m'aider? Et j'ai trouvé trois indices, je vais vous les citer, je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais je pensais à ce fait que, en fait, personne ne peut, rien ne peut m'arriver, personne ne peut me maudire si Dieu ne lui a pas permis. Exactement ce que dit David. Et cette phrase, ça m'a vraiment fait un peu exploser la tête, ça m'a vraiment remis en question. Et je cherchais un exemple de ça, et on a un exemple époustouflant dans Nombre. Je ne vais pas vous lire le passage. C'est Nombre 22, 38 et 23, 12 à 20. C'est l'exemple de Balaam. Est-ce que vous êtes familière avec l'histoire de Balaam? Oui, non, pas trop. Je vous la fais très vite, en fait. Balaam est un prophète que l'on paye. Qu'un roi paye pour maudire Israël. Et Balaam accepte. Et souvenez-vous de ce que je vous disais avant, la bénédiction, c'était comme un serment. C'est-à-dire, une fois que tu prononces la bénédiction ou que tu prononces la malédiction, ça arrive. Ça arrive. Que Dieu soit d'accord ou pas, mais ça arrive. C'est comme un serment, comme un vœu qu'on fait. Donc Balaam accepte de maudire Israël. Il arrive devant Israël pour maudire Israël. Et au contraire, c'est une bénédiction qui sort. Ça énerve encore plus le roi qui va une deuxième fois, qui dit non, ben là, on arrête de rire, tu vas maudire Israël. Oui, 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 je vais maudire Israël. Encore une fois, au moment de maudire Israël, il est incapable de faire autre chose que de bénir Israël. Et je crois à trois reprises. À chaque fois, il monte d'un cran sur la montagne pour que la malédiction soit de plus en plus grande. Et à chaque fois, la bénédiction est de plus en plus grande. Et là, c'est vraiment l'exemple typique de la souveraineté de Dieu, Dieu qui empêche littéralement Balaam de maudire Israël. Et là, donc ça veut dire que Dieu peut le faire. Dieu peut empêcher les gens de nous maudire. Et là, Dieu permet à Shimei de maudire David. Donc ça, c'est quelque chose où j'ai besoin de me dire devant Dieu, en fait, la seule chose qui permet de s'en sortir, pas qu'intellectuellement, mais c'est de dire, Seigneur, ok, je m'abandonne à toi, je sais que tu es bon, tu es souverain. Donc si tu le permets dans ma vie, il y a une raison. Et cette raison, je vais peut-être jamais la connaître, ou en tout cas ici-bas, je ne vais pas la connaître, mais je te fais confiance. Je vous dis, c'est délicat d'en parler parce que oui, on peut soi-même ou avoir été témoin dans des vies de choses qui sont terribles, qui sont absolument pas des anecdotes de une maîtresse a mis que j'étais une lente sur mon bulletin d'école, des choses très dures, mais simplement, juste, il y a que le fait de pouvoir m'abaisser, m'humilier en disant Seigneur, toi tu sais tout, moi je sais pas forcément tout, même si ça a un impact sur moi, je te fais confiance. Et aussi de toujours dans ce cas-là, ce qui m'aide, en tout cas personnellement, c'est me recentrer sur une chose, sur la personnalité, la personne de Dieu. Je sais que Dieu est infiniment bon, infiniment amour et infiniment juste. Un deuxième point aussi qui peut m'aider dans la chaleur de ces événements, c'est que la bénédiction de Dieu dans ma vie surpasse toutes les malédictions que l'on a pu proférer sur moi et toutes les malédictions que l'on proférera sur moi. En fait, Dieu m'aime. Je suis la prunelle de ses yeux. Je pourrais vous donner toute une liste et si ça vous intéresse, je pourrais le faire dans le chat, etc. Mais de versets où je suis assurée de la bonté, de la grâce, de la faveur, de l'amour de Dieu à mon égard. Vraiment, il fait concourir toutes choses à mon bien. Les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui m'est destinée et qui m'attend. Je peux me réjouir parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je sais qu'un jour je serai parfaitement consolée. Je sais que je suis bénie de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Toutes, pas une partie, pas un dixième, pas une moitié, ce qui serait déjà énorme. Mais je suis bénie de toutes les bénédictions. Et donc Dieu va toujours tout faire pour concourir à mon bien et pour surtout, ce qui est la gloire ultime, former l'image de Jésus-Christ en moi. Et un troisième point, si on est toujours dans cette logique de bénédiction, malédiction, c'est que à la croix, Jésus-Christ a cloué et brisé toutes les malédictions terrestres, tout l'héritage du péché, toutes les malédictions spirituelles, toute l'hérédité adamique. Il a été fait péché et malédiction pour moi. En Pierre 2, 4, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 Pierre, pardon, Pierre 2, 24, dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Donc en fait, ça, ce sont ces trois éléments qui peuvent quand on est sous ce couvert, quand on est dans la chaleur de ce genre de moment de nous poser et de réfléchir. Premièrement, Dieu est souverain. Il permet peut-être ça dans ma vie, mais je peux lui faire confiance. Je lui fais confiance parce qu'il m'aime. Je lui fais confiance parce qu'il est puissant et il sait toutes choses et il permettra toujours une voie de secours, quelle qu'elle soit. Ensuite, il m'a béni de toute bénédiction spirituelle et il a été fait péché et malédiction pour moi. Ça me suffit. Face à ces paroles d'accusation, je peux toujours, à ce moment-là, poser et pas réagir comme un Abishai. Juste dire, ok, je me pose, Seigneur, tu sais. Ça ne veut pas dire que je ne souffre pas. Ça ne veut pas dire que je ne pleure pas. Ça ne m'empêche pas de venir à Dieu, ça ne m'empêche pas de répandre mon âme devant lui, de chercher auprès de lui la consolation. Ça n'annule pas la souffrance, ça n'annule pas la dureté de la situation, la dureté de l'injustice peut-être. Mais il y a aussi une chose, c'est que dans tout ce fatras de choses, dans tout ce fatras de malédiction, il y a aussi quelque chose qui peut nous être profitable. En dehors de tout ce que j'ai dit, c'est de chercher, est-ce qu'il y a, ne serait-ce que, même si c'est minuscule, mais une part de vérité. Et d'apprendre ça, il y a peut-être des choses, c'est sûr que Shimei était mal disposé, parce que forcément, il était de la famille de Saül, donc forcément que déjà dans sa tête, il avait des a priori, il était forcément contre la famille de David, parce qu'il était biaisé quelque part, il avait été déjà lésé. Mais au-delà de ça, au-delà de sa propre mauvaise foi et tout, est-ce qu'il y avait des choses vraies là-dedans? Et par exemple, Dieu le dira plus tard à David, c'est vrai, David était un homme de sang. C'est pour ça que David n'est pas celui qui a plus tard construit le temple. Il ne voulait pas que le temple soit bâti. Par contre, il a accumulé le trésor, il a instauré la royauté, il a établi, affirmé la royauté en Israël. Et c'est son fils qui plus tard va pouvoir édifier le temple de Jérusalem. Mais donc, on voit qu'il y a des choses, des petits indices de vérité. Et ça, on peut le prendre, on peut recevoir de nos ennemis, on peut recevoir des situations méchantes et injustes de notre vie comme des petites graines de vérité. En revanche, tout le reste, il ne faut jamais le prendre sous la condamnation. Tout ce qui vient, c'est on n'est jamais sous une condamnation. Quand Dieu nous montre quelque chose, même au travers de la bouche des ennemis, c'est pas pour nous blesser, c'est pas pour nous détruire. C'est simplement le prendre comme un fait. Je dis ça, c'est très facile, croyez-moi, je suis une méga émotive. Donc moi, généralement, le moindre truc, c'est tout de suite un drame. Mais juste d'être dans l'objectivité, c'est peut-être vrai. Je le prends, je l'apporte à Dieu. Et j'accepte, c'est peut-être, dans cette vérité, il y a peut-être une forme de correction, entre guillemets. Pas de jugement, pas de châtiment, pas de malédiction, mais une correction, quelque chose qui va aider mon âme, qui va corriger mon âme. Et encore une fois, j'insiste bien, sans condamnation. Mais ça ne va jamais remettre en cause mon identité. Je suis une enfant de Dieu. Dieu m'aime. S'il permet ça, il m'aime. C'est la base, le fondement de tout. Et en fait, je peux accepter les petites graines de vérité. Par contre, tout le reste, toute la condamnation, le blasphème, la culpabilité, je peux le rejeter. Et en cherchant, je suis tombée sur un passage de Proverbe qui était beau parce que c'est Proverbe 26:2. Comme le moineau et l'hirondelle qui volettent sans se poser, une malédiction non méritée n'atteint personne. Et en fait, c'est beau de se dire que c'est exactement ça. Quand je suis fondée en Dieu, quand je suis cachée en Christ, quand je prends dans une situation douloureuse, injuste, etc., juste la graine de vérité dont j'ai besoin parce que je l'apporte à Dieu, etc., je me soumets au plan de Dieu. Je rejette, pour autant je rejette la condamnation, je rejette tout ça. En fait, ça va glisser sur moi, ça ne va pas se ficher dans mon cœur, ça ne va pas me définir, ça ne va pas me donner une fausse identité. Non, je ne suis pas lente, ou non, je ne suis pas une menteuse ou une paresseuse, ou quelques qualificatifs qui aient pu être attachés à moi et qui a pris racine en moi simplement parce que, je ne sais pas, je l'ai laissé me définir. Non, non. Et de penser aussi une chose, c'est comme Dieu est souverain, on voit aussi qu'il a cette capacité de tourner la malédiction en bénédiction. On peut penser à Joseph, qui dit à ses frères, quand il retrouve ses frères au bout de 20 ans, ce que vous aviez prévu de faire quelque chose pour le mal, mais Dieu l'a tourné en bien. On voit également en Deutéronome 23:5, toujours à propos de Balaam, « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. » Donc juste d'avoir cette attitude où on peut s'attendre à lui, s'attendre au Seigneur, parce que lui, de toute façon, nous, tout ça, c'est l'être humain. Donc ça peut être, si on le garde à ce niveau-là, c'est péché contre péché, c'est la loi du plus fort. C'est celui qui va avoir la langue la plus rapide, la plus aiguisée, la plus effilée, celui qui va avoir raison. Mais c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Juste confions-nous à Dieu et faisons-lui confiance de tout notre cœur. C'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Non pas qu'on cherche à absolument la vengeance et la rétribution, mais je veux dire, on peut avoir cette paix-là. Et puis, pour terminer, je vous citerai, parce que je disais un peu plus tôt, c'est que toute chose concourt à notre bien et que Dieu permet les choses dans notre vie pour nous rendre conforme au caractère de son fils. Et donc, je regardais un petit peu dans le Nouveau Testament ce qui nous était dit à propos du fait de bénir ou de maudire les gens. Jésus nous dit en Matthieu 5:43, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme ceux qui ne le sont pas. Donc ensuite, soyez donc parfaits, au verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. Et aussi en Luc 6, 28. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et si vous voulez un petit dernier pour la route, Romains 12, 14. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Et ouais, c'est un sujet qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je suis pas du tout arrivée. C'est pas du tout quelque chose de facile, comme je vous expliquais. Je sais que dans ma relation avec le Seigneur, cet aspect d'accepter de me soumettre à la souveraineté de Dieu, ça me secoue, ça me met au défi. Parce que naturellement, je suis aussi manichéenne je peux facilement remettre en cause ou mettre en doute la bonté et la faveur de Dieu à mon égard s'il laisse des choses compliquées m'arriver. Mais en réalité, tout ça, ce sont des pensées qui ne sont que naturelles, qui ne sont que normales. Et ça m'a vraiment mis au défi de développer une pensée surnaturelle, une pensée spirituelle sur ces choses-là. Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est de me dire, oui, la même chose. Je peux mal réagir, je peux maudire, mais je peux aussi. Ma bouche peut être utilisée pour louer Dieu. Elle peut être utilisée pour réconforter peut-être quelqu'un. Elle peut être utilisée pour bénir les gens. Elle peut... Si je fais rien, en admettant que je fasse rien du tout, je peux quand même utiliser ma bouche pour rien dire et aller dans le secret et prier. Et déverser mon âme devant Dieu et dire, Seigneur, je te recherche et je te prie, même si ça a du mal à passer, etc. Je vais pas faire une prière comme les pharisiens qui prient bien devant les foules. Non, je vais pas faire une belle prière. J'ai du mal à dire, mais je te demande de bénir cette personne qui m'a fait tant de mal. Et de m'apporter la consolation. Et puis aussi, de cette capacité qu'a la parole de à la fois de prévenir et de me restaurer. Je sais que si Dieu permet quelque chose dans ma vie, il y a quelque chose pour moi. Et peut-être que c'est une vérité que je trouve dure à entendre, mais je peux toujours l'amener à Dieu. Et encore une fois, à chaque fois que quelque chose arrive, à chaque fois qu'il y a peut-être des paroles blessantes, etc., plutôt que de réagir, dire « Seigneur, aide-moi à détricoter tout ça, à être objectif, parce que je veux entendre la vérité. Je ne veux pas être mise en prison dans une fausse identité. » Je ne suis pas lente. Ou je ne vais pas laisser le fait d'être lente me définir uniquement. Et ce n'est pas forcément un manque. Depuis quand lente est-il devenu une insulte? C'est devenu une insulte à partir du moment où mes émotions ont été infectées par ça, où j'en ai fait une identité. Mais c'est pas mal d'être lent. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est pas mal non plus. Moi, je l'ai entendu comme ça, vous voyez. Mais voilà, j'ai cette capacité d'aller devant Dieu. J'ai cette capacité d'être restaurée, de pas... Il faut pas non plus dire, bah non, c'est Chiméi, donc c'est un fils, c'est n'importe quoi, c'est un chien mort, etc. Donc j'entends rien, j'écoute rien. Non, il y a peut-être une correction là qui est pour moi, que Dieu permet pour attirer mon oreille. Je vais pas la rejeter, mais par contre je vais pas prendre la malédiction, je vais pas prendre la condamnation, je vais juste apporter ça à Dieu et je vais lui faire confiance avec tranquillité.